France Culture.
Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. 26 pays s'engagent à Paris pour offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine. Ils sont prêts à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs, affirme Emmanuel Macron. Mais l'Italie répète à l'instant qu'elle n'enverra pas de troupes alors que le flou règne encore ce soir sur les intentions américaines. Première manifestation d'agriculteurs en colère à Bruxelles contre l'accord avec le Mercosur, validé hier par la Commission européenne. Accord rejeté par les principaux syndicats agricoles français. Jean-Michel Aulas, candidat à la mairie de Lyon en mars prochain, l'ancien président de l'Olympique lyonnais, soutenu par la droite, affrontera le maire écologiste sortant Grégory Doucet. Maire, pourquoi faire ? Deuxième épisode de notre rendez-vous consacré aux élections municipales après ce journal dans un quart d'heure. On parle aujourd'hui de l'âge avancé des élus avec le témoignage rare d'un jeune maire, un dossier préparé par Rosalie Lafarge. Icône de la mode et de la culture italienne, Giorgio Armani est mort. Le couturier italien avait 91 ans. C'est le groupe Armani qui a annoncé tout à l'heure le décès de son créateur, fondateur et infatigable moteur, selon les termes du communiqué. Giorgio Armani avait créé sa maison de couture à Milan en 1975. Il avait réussi à bâtir un véritable empire dans l'industrie du luxe tout en restant indépendant. Bruno Duvic nous appelle de Rome.
Re Giorgio, l'expression revient partout depuis cet après-midi en Italie. Le roi est mort, roi de la mode, de l'élégance, protagoniste absolu de la culture italienne. C'est l'hommage du ministre de la Culture. Armani ferme ses yeux bleus 50 ans après avoir fondé sa marque. Repéré dans les années 60 par Nino Cerruti, il se lance en 1975. Veste plus légère pour hommes et femmes, costumes déstructurés, tailleurs pantalons, longs manteaux à ceinture. Il accomplit une révolution aux couleurs sobres et au nom de l'homme ou de la femme de la rue. Armani, c'est aussi Milan. La ville sera en deuil lundi en marque de reconnaissance. C'est encore la griffe italienne à Hollywood, de Richard Gere à Melanie Griffiths. C'est enfin un groupe indépendant, là où tant de marques italiennes sont contrôlées par les géants français du luxe. 8700 salariés, 650 boutiques, une entreprise qui se porte bien, chapeautée par une fondation. Giorgio Armani avait prévu sa succession. L'Italie se souvient de lui avec émotion. Cela rejoint ce qu'il disait, l'élégance, ce n'est pas se faire remarquer, mais qu'on se souvienne de vous.
Bruno Duvic, correspondant en Italie. Autre disparition, celle de l'acteur Jacques Charrier, à l'âge de 88 ans, jeune premier du cinéma français. Dans les années 50 et 60, il connaît un premier succès en 1958 avec Les Tricheurs, le film de Marcel Carné. Jacques Charrier, qui est surtout connu pour avoir été en 1959 le deuxième mari de Brigitte Bardot après Roger Vadim. Le couple aura un fils, Nicolas Jacques, le seul enfant de Brigitte Bardot. Ils divorceront en 1963. Volodymyr Zelensky parle ce soir d'une avancée concrète. Le président ukrainien est à Paris aujourd'hui pour le sommet de la coalition des volontaires et les 26 pays représentés se sont engagés sur les fameuses garanties de sécurité apportées à Kiev en cas de cessez-le-feu avec la Russie. Ces pays sont prêts à déployer des troupes en Ukraine avec le soutien des États-Unis. C'est en tout cas ce qu'affirme Emmanuel Macron après un coup de fil à Donald Trump. Le président français tenait tout à l'heure une conférence de presse à l'Élysée, conférence à laquelle vous avez assisté, Frédéric Seyss. Emmanuel Macron veut croire à un tournant, Frédéric, même si des doutes subsistent sur la place des États-Unis dans cette coalition pour l'Ukraine.
Oui, en conférence de presse aux côtés de Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron salue les progrès accomplis.
Nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement se sont engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs pour apporter cette réassurance au territoire ukrainien et à l'Ukraine le jour d'après le cessez-le-feu ou la paix.
Mais face aux questions des journalistes qui demandent de préciser quels pays promettent quel soutien exactement, troupes au sol ou bien simple envoi de matériel supplémentaire, Emmanuel Macron botte en touche, nous n'allons pas nous découvrir auprès de la Russie. Cette force de réassurance sera-t-elle soutenue par les États-Unis? Oui, ce soutien sera finalisé dans les prochains jours, garantit Emmanuel Macron, mais Volodymyr Zelensky, à son côté, demande encore à voir.
Nous ne voulons pas répéter l'épisode des accords de Minsk. Cette fois-ci, nous voulons des documents. Nous voulons des garanties qui engagent juridiquement, qui soient votées par chaque parlement des pays alliés.
Au cours d'un appel téléphonique, Donald Trump a demandé à ses alliés européens d'arrêter de soutenir économiquement la Chine et la Russie en lui achetant du pétrole, Donald Trump qui n'a pas encore précisé publiquement les modalités de son éventuel soutien.
Frédéric Seitz, depuis le palais de l'Élysée, reste aussi maintenant à connaître la réaction de la Russie. Moscou, qui jusqu'à présent a toujours répété qu'il n'était pas question d'accepter des troupes occidentales en Ukraine. Plusieurs dizaines d'agriculteurs manifestent en ce moment à Bruxelles. Première mobilisation depuis la présentation hier par la Commission européenne de son accord commercial avec le Mercosur. Le rassemblement a lieu en face du Parlement européen qui devra être consulté dans les mois qui viennent pour valider définitivement cet accord. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondant permanent à Bruxelles. Fabien, vous vous trouvez dans ce rassemblement organisé notamment par la Confédération paysanne avec d'autres syndicats alternatifs européens. Le message est clair, Fabien, cet accord, ils n'en veulent pas.
Non, et c'est écrit en gros et en couleur sur leur banderole, Stop UE Mercosur, Solidarité Paysanne ou encore No Future for Agrobusiness. Cet agriculteur, Jörg Schuppisser, la soixantaine, travaille dans une ferme biodynamique ici en Belgique.
Les sujets, c'est les normes. Les agriculteurs belges ont des normes. Même si elles sont discutables, elles sont toujours meilleures que ce qui va nous tomber dessus, quoi. Moi, je pense à l'alimentation de mes petits-enfants. Les poulets vont devenir encore plus blancs, plus insipides, s'ils sont blindés d'antibiotiques et de trucs, qui n'ont pas un minimum de protection par rapport à la chimie, quoi.
Fabien Cazot.
Oui, les agriculteurs mobilisés aujourd'hui dénoncent un accord déconnecté des préoccupations du monde paysan. Annie Enrard est maraîchère, elle aussi en Belgique.
C'est un accord pour l'agrobusiness, c'est pas pour les paysans. C'est un accord commercial pour que certains en mettent plein leur poche, quoi. Pourquoi importer de la nourriture de l'autre côté du monde? Que cette nourriture serve à nourrir les gens de là-bas et qu'on produise notre nourriture ici. C'est pas, je ne suis pas pour qu'on referme la société, mais c'est complètement surréaliste.
Ce rassemblement encore modeste par sa taille préfigure peut-être de mobilisations de plus grande ampleur qui seront organisées d'ici la fin de l'année. C'est en tout cas ici l'espoir des organisateurs.
Merci Fabien Cazot, vous étiez en direct de Bruxelles. François Bayrou a poursuivi ses consultations politiques aujourd'hui, 4 jours maintenant avant le vote de confiance qu'il a sollicité à l'Assemblée. Consultation vaine a priori, puisque le Parti Socialiste reçu ce matin à Matignon reste décidé à renverser le Premier ministre. Le patron du PS, Olivier Faure, est disponible pour lui succéder, d'autant plus que Laurent Wauquiez, le chef des députés LR, a déclaré ce matin que son groupe n'avait l'intention de censurer ni un gouvernement socialiste, ni un gouvernement RN. Laurent Wauquiez qui dit vouloir éviter une instabilité catastrophique. Propos qui ont fait bondir le président des Républicains Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur a rappelé sur le réseau X qu'il ne voulait pas d'un gouvernement socialiste. Cette crise politique pèse sur la dette française. Illustration ce matin, l'agence France Trésor, chargée de gérer cette dette, a emprunté 11 milliards d'euros sur les marchés financiers. Les prêteurs étaient au rendez-vous, mais les taux d'intérêt qu'ils ont consentis à la France sont au plus haut, voire pour certains à des niveaux inédits depuis la crise financière de 2008. Marie Viennot, bonsoir.
Bonsoir.
Des taux d'intérêt en hausse, cela signifie un coût de la dette qui va encore augmenter.
Oui, alors comme elle le fait tous les premiers jeudis du mois, l'agence France Trésor a emprunté pour la France sur 3 durées longues, 10 ans, 18 ans et 30 ans. Elle n'a eu aucun mal à trouver des prêteurs. Ils ont même proposé 2 fois plus que les 11 milliards demandés, mais ils l'ont fait à des taux bien supérieurs à ces derniers mois. Pour un emprunt à 10 ans, une OAT dans le jargon, 3,57%. Même la dissolution, même la première censure n'ont pas eu un tel effet à la hausse. Il faut remonter à octobre 2023. À l'époque, il y avait une majorité stable à l'Assemblée, mais c'est la baisse de la notation de la dette française qui avait alors tendu les investisseurs. Alors pour l'emprunt sur 30 ans, il faut remonter à 2009, donc en pleine suite de la crise financière, pour trouver un taux d'intérêt supérieur aux 4,5%. 43% obtenu aujourd'hui. En l'espèce, d'autres États ont vu leur taux à 30 ans fortement augmenter ces derniers jours, notamment le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. C'est donc un phénomène plus général lié aux doutes qu'ont les investisseurs sur la capacité des grands pays très endettés à les rembourser un jour. Le résultat et la conséquence pour nous, c'est effectivement que les 11 milliards empruntés vont coûter plus cher à rembourser que ceux d'il y a un an et encore plus que ceux d'il y a 10 ans quand la BCE avait des taux très bas et que l'on empruntait à 1%, voire moins. Voilà comment, dizaines de milliards par dizaines de milliards, la charge de la dette grossit. 30 milliards d'euros en 2026, 60 en 2024, 107 milliards en 2029, des chiffres que répète régulièrement François Bayrou. Et encore, ce sont des chiffres si la France ramène son déficit à 3% dans les années qui viennent.
Explication signée Marie Viennot. Revenons à présent à l'actualité politique avec cette confirmation à Lyon. Jean-Michel Aulas sera bien candidat à la mairie de la 3e ville de France en mars prochain. Il a annoncé aujourd'hui qu'il lancerait sa campagne dans quelques jours. Jean-Michel Aulas, c'est l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, un club qu'il a porté au sommet du football français dans les années 2000. Ce chef d'entreprise espère déloger le maire sortant, l'écologiste Grégory Doucet, qui briguera un second mandat. Nicolas Ballu, bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Michel Aulas se dit sans étiquette, mais il bénéficiera du soutien des LR.
Oui, la candidature de Jean-Michel Aulas aura une couleur, puisque tout à l'heure, Laurent Wauquiez, le patron des députés LR et président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, lui a publiquement apporté son soutien. Le candidat LR pressenti, Philippe Oliver, s'est finalement rangé derrière l'ancien président du club de foot. Un ancien président qui jouit d'une grande notoriété et d'une assez grande popularité. Certains sondages en début d'année le donnaient devant les autres candidats d'opposition municipale, dont Philippe Oliver. Jean-Michel Aulas a donc consulté à l'échelon national Nicolas Sarkozy ou Gabriel Attal, par exemple. Il a rassemblé petit à petit le centre droit et la droite, et pendant le même temps, il s'est très clairement affirmé contre les Verts, c'est une habitude, et surtout contre le maire écologiste Grégory Doucet. L'homme d'affaires a cherché à rallier les mécontents et imposer un duel avec Grégory Doucet sur les réseaux sociaux. L'homme d'affaires s'indignant, entre autres, je cite, de 5 années de méthode brutale, de la saleté, de la violence, des embouteillages ou des travaux, ou encore polémiquant avec la municipalité cet été. Aucun nom sur une liste n'a été pour l'instant présenté, mais Jean-Michel Aulas a commencé à égrener des propositions, la gratuité des bus, métro et tram, mais aussi gages à la droite, l'extension des caméras de surveillance et une police municipale des transports. Nous sommes dans les starting blocks, disait-il tout à l'heure lors d'un point de presse, mais s'il emmène la droite et le centre droit, le plus dur commence pour Jean-Michel Aulas dans une ville qui a voté à gauche non seulement en 2020, mais aussi aux dernières législatives il y a un peu plus d'un an.
Merci Nicolas Ballu, on reparle des élections municipales dans quelques minutes avec notre rendez-vous hebdomadaire Maire Pourquoi Faire. Quels sont les effets psychologiques du réseau TikTok sur les jeunes? C'est l'objet d'une commission d'enquête parlementaire. Le rapport de cette commission a été adopté à l'unanimité, ont indiqué les deux rapporteurs, le socialiste Arthur Delaporte et la macroniste Laure Miller. Il sera présenté la semaine prochaine. En attendant, les deux députés ont révélé aujourd'hui les résultats de la consultation citoyenne sur TikTok, à laquelle 30 000 personnes ont répondu. Fiona Mogadam.
30 000 personnes, dont 19 000 lycéens, cœur de cible de cette commission d'enquête, un chiffre qui est donc élevé, même si cette consultation n'est pas basée sur un échantillon représentatif, ce n'est pas un sondage, mais sur des personnes volontaires pour y répondre. Les résultats donnent tout de même quelques indications sur l'usage de TikTok chez les jeunes et viennent conforter les auditions menées par la commission d'enquête ces 6 derniers mois. TikTok n'est pas forcément le réseau le plus fréquenté par les répondants, qui mentionnent aussi un Instagram et Snapchat, mais ceux qui l'utilisent y restent longtemps, plus d'une heure par jour pour plus de la moitié des mineurs interrogés et même plus de 2 heures pour un tiers d'entre eux. Pour les députés Arthur Delaporte et Laure Miller, cela vient confirmer cette capacité du réseau à retenir ses utilisateurs. Des questions relatives au contrôle parental ont également été posées. Il a été mis en place pour la moitié des mineurs seulement. Plus d'un quart des participants disent avoir été exposés à des contenus choquants, 18% évoquant des des contenus liés au suicide, à l'automutilation ou encore aux troubles du comportement alimentaire. Des contenus qui n'ont pas été supprimés systématiquement après avoir été signalés. 1000 personnes disent aussi avoir été harcelées sur TikTok. Alors pour protéger les mineurs, une proposition revient souvent, interdire les réseaux sociaux aux moins de 13 ans. Un peu moins de la moitié des mineurs y sont favorables. Ils sont quasiment autant pour une interdiction aux moins de 15 ans.
Un mot du temps, 3 départements en vigilance orange pour les orages ce soir, l'Ardèche, la Drôme et l'Isère. Demain, les éclaircies reviennent sur la plupart des régions, mais le ciel restera nuageux et parfois pluvieux sur la façade est. Les températures minimales iront de 8 à 19 degrés. Demain après-midi, il fera entre 19 et 30 degrés.
France Culture, élection municipale 2026. Maire, pourquoi faire ?
Deuxième épisode de notre rendez-vous consacré au municipal des 15 et 22 mars prochains. Maire, pourquoi faire dans un contexte politique très incertain? Avec cette question, ce soir, les jeunes ont-ils envie de s'engager pour leur commune? En 2020, aux dernières municipales, moins de 4% des maires avaient moins de 40 ans au moment de leur élection. Les freins à l'engagement restent manifestement nombreux, comme le montre ce reportage de Rosalie Lafarge dans le département de l'Eure.
Il se gare en vitesse, pousse la porte de la mairie, termine un coup de téléphone.
Ouais, mais on sera informé.
Et grimpe l'escalier qui mène à son bureau.
Alors mon bureau, c'est un gros bazar.
Ici, le plan local d'urbanisme, là, des achats de parcelles à traiter. Plus loin, le projet pour l'école ou le dossier ressources humaines.
Et puis des feuilles volantes un peu partout.
Maire sans étiquette des 1900 habitants des Trois Lacs, dans l'Eure, Joris Beignet est forcément ultra polyvalent.
Ah, il faut, on n'a pas le choix. En fait, il y a beaucoup de dossiers quand on est maire. Donc oui, il faut savoir passer du coq à l'âne. Mais ça, après, c'est parce qu'on le veut bien. C'est-à-dire que ça pourrait très bien vivoter, mais en fait, on a beaucoup de projets parce qu'on a plein d'idées.
Élu maire à 26 ans, en 2020, il est le plus jeune de son département. Mais il n'a pas découvert la fonction en l'exerçant. Il était déjà conseiller municipal depuis 6 ans.
Je trouvais que c'était bien aussi de rendre à mon village qui m'avait beaucoup donné.
Et il ne fait de sa jeunesse ni un atout, ni une faiblesse.
C'est l'état d'esprit, en fait, qui est important. Moi, je connais dans l'agglomération des maires âgés, qui sont très jeunes dans leur tête, et très au fait de tout, et qui sont bien plus jeunes que certains jeunes, en fait. Et donc, en fait, c'est surtout un état d'esprit. Après, c'est plus le débat vie active ou vie de retraité. La capacité à être disponible n'est pas la même quand vous êtes retraité ou actif.
Lui est cadre dans la fonction publique territoriale avec un employeur qu'il dit compréhensif. Mais même comme ça, la vie de maire prend du temps, beaucoup de temps.
C'est-à-dire que le maire, il est maire H24, hein, et donc les fêtes de village ou les événements, c'est aussi le week-end. Donc si vous n'y êtes pas, ça passe pas bien. Moi, j'essaie d'être très présent. Après, oui, au quotidien, il y a beaucoup de réunions le soir. Moi, je rentre rarement tôt chez moi. Si je rentre avant 19h, c'est la fête, quoi. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de choses aussi, des petites choses du quotidien que les gens ne voient pas et ne soupçonnent même pas. Donc faut pas se leurrer, c'est beaucoup. Ça prend du temps dans la vie, ça a des conséquences évidemment sur la vie de couple.
Le tout pour 1600 euros d'indemnité mensuelle.
Moi ça me suffit.
Et s'il n'est pas surpris du faible nombre de jeunes mères en France.
Je vais pas faire mon vieux schnock en disant ça, mais c'est un constat, on a quand même une société qui est vraiment tournée vers soi-même.
Jusqu'ici, Joris Beignet n'a jamais regretté de s'être lancé.
Des regrets non, parce que je m'éclate quand même dans ce que je fais. Après, non, des moments où on en a un peu marre, oui, ça peut arriver. Parce que des fois on cumule, on reçoit des mails très contrariants. Et souvent, c'est le sentiment d'injustice, en fait. Les gens disent des choses sans se rendre compte, forcément, de l'impact que ça a. Et même, on nous prête des capacités que nous n'avons pas. Je n'ai pas des super pouvoirs. J'administre la commune.
Là où lui reste passionné, d'autres ont dit stop, découragé, épuisé. Parfois, comme Camille Pouponneau, jeune mère démissionnaire de Pibrac, en Haute-Garonne. Elle en a fait un livre, Mère, le grand gâchis. Loin de surprendre l'Association des maires de France.
On ne va pas fermer les yeux quand même sur la crise des vocations qui est la nôtre.
La secrétaire générale de l'AMF, Muriel Fabre.
Il y a quand même 86% des maires, sur la dernière enquête de santé mentale qu'on a faite à l'Association des maires de France, qui disent que ce mandat a été usant. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des candidats en 2026. Pour autant, c'est un apprentissage. On ne s'invente pas candidat à une élection municipale, on ne s'invente pas maire, on ne s'invente pas adjoint, on ne s'invente pas conseiller municipaux. Parce qu'aujourd'hui, les freins à l'engagement sont tels que si on n'y répond pas, c'est des maires qui vont jeter l'éponge.
Ils n'ont en tout cas pour l'instant pas tous été dégoûtés. D'après une étude du CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po, plus de 60% des maires de moins de 40 ans se voient bien poursuivre leur engagement l'an prochain.
Alors, cette étude du CEVIPOF, c'est Martial Foucault qui l'a menée, professeur des universités à Sciences Po Paris. Il concentre une grande partie de ses recherches sur la politique municipale. On lui doit notamment « Maire au bord de la crise de nerfs », ouvrage paru aux éditions de l'Aube. Rosalie Lafarge est allée lui demander pourquoi les jeunes sont si peu nombreux à tenter l'expérience municipale. On écoute Martial Foucault.
Il y a une explication factuelle, je crois qu'il y a une explication plus sociétale. L'explication factuelle, c'est que effectivement, avoir moins de 40 ans et s'engager dans un conseil municipal, en particulier si on est maire, il faut s'assurer que si on a une profession en parallèle, on va pouvoir concilier les deux fonctions. Et ça, je crois que le maire ou la maire ne peut pas avoir la pleine maîtrise de cette organisation de vie professionnelle et fonction de maire. Parce que ça va dépendre grandement de l'employeur. Là, le témoignage de ce jeune maire, il est fonctionnaire territorial. Il y a une plus grande compréhension de la fonction publique territoriale pour l'investissement dans une fonction élective. Dans le secteur privé, c'est pas toujours garanti. Loin de là. Bien souvent, sur un premier mandat, on peut être très encourageant et presque faire de ce salarié d'une structure un salarié modèle. Si l'envie lui prenait de se représenter, très vite, les choses vont se tendre entre l'employeur et le salarié. Donc ça, c'est factuel. Une explication plus sociétale, je crois qu'elle tient également à un discours qui a été installé depuis plusieurs années, à partir des années 90, parce que la France traverse une grave crise du chômage. Et donc, il y a eu un discours politique pendant près de 30 ans où on insistait sur la nécessité d'être qualifié, diplômé, comme étant un moyen d'éviter de se retrouver inactif. Et donc, ce discours a conduit effectivement à davantage individualiser des trajectoires de vie, rendant très difficile de valoriser, à côté d'une activité professionnelle, toute autre forme d'engagement.
Vous parliez en premier du difficile équilibre vie professionnelle, vie de maire. Il y a d'autres freins à l'engagement aujourd'hui ?
Le premier frein que je vois, au-delà de la conciliation vie professionnelle, c'est l'accompagnement dans la fonction. Parce que oui, on ne s'invente pas maire, et en particulier dans les petites communes, parce que le témoignage dans le reportage est très intéressant, il emploie le terme de polyvalence, il faut être polyvalent. C'est vrai, on demande beaucoup de rôles au maire. On lui demande un rôle de bâtisseur, de gestionnaire, de manager, responsable des ressources humaines, responsable juridique, parfois aussi médiateur, il doit gérer des conflits. Tous ces rôles ne sont pas innés, ce qui implique de devoir très très vite appréhender, s'approprier toutes les compétences nécessaires, mais avec un vrai dilemme démocratique, je pense, les citoyens français n'attendent pas de leur maire une figure empreinte de technicité. Ils ne veulent pas de maire technicien, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est un maire qui comprenne comment défendre un peu les intérêts de la commune et répondre à une qualité de cadre de vie. Et je trouve qu'aujourd'hui, une manière peut-être de corriger cette insuffisance de jeunes maires, c'est une responsabilité que les associations d'élus devraient endosser, celle de former très très tôt quand on est élu. Et la formation, ce n'est pas une formation purement technique, c'est pas savoir comment on construit un budget. Non, c'est comment un maire peut transformer ses projets en actions politiques. On doit être capable de comprendre, d'absorber des demandes sociales, de prioriser celles sur lesquelles on peut intervenir et expliquer pourquoi on a plutôt fait un choix d'investissement dans la voirie plutôt que sur l'attractivité d'entreprise. Et ça, je trouve que les maires dans les plus petites communes sont quand même fortement démunis parce qu'ils n'ont pas autour d'eux des équipes pléthoriques. C'est un petit peu la débrouille. Et si un jeune maire n'est pas entouré dans son conseil municipal, ça va être très difficile.
Face à certains de ces constats, une loi sur le statut de l'élu a été adoptée en juillet à l'Assemblée. Elle est attendue maintenant au Sénat. Elle est censée justement lever des freins à l'engagement, avec par exemple un réajustement des indemnités des élus des petites communes. Est-ce que ça, c'est de nature à susciter des vocations ?
C'est pas véritablement une demande qui est formulée par les élus d'une revalorisation. Alors, aucun élu se plaindra. Mais quand le législateur décide de mettre en avant la revalorisation des indemnités, moi je vois un risque sérieux, c'est une perception par les Français que les élus locaux deviennent petit à petit des professionnels de la vie politique. Et c'est précisément ce qui aujourd'hui préserve les maires en termes de confiance des Français, c'est de ne pas être associé à des élus nationaux que beaucoup de Français considèrent comme très privilégiés. Et donc, il faut vraiment manipuler avec beaucoup de prudence cette question de l'indemnité, parce que c'est pas ça qui est demandé.
Et qu'est-ce qu'il faudrait alors ? Qu'est-ce qui est demandé ?
Ce qui est demandé, c'est un, comment on reconnaît la fonction de maire. ça ne consiste pas simplement à faire appel aux maires pour gérer des crises d'ampleur nationale ou supranationale. Après la reconnaissance, il y a une forte demande des maires pour plus de fluidité dans les relations entre les maires et les différents acteurs locaux, et en particulier les services déconcentrés de l'État. Et là, je trouve que le texte débattu à l'Assemblée nationale n'apporte pas véritablement de réponse sur comment rendre le métier de maire moins complexe, comment on se reconvertit professionnellement et comment la société dans son ensemble, au-delà des employeurs, valorise la fonction de maire. Donc, pour moi, c'est plus dans cette direction qu'il faudrait aller, comment apporter une réponse plus politique ou civique qu'une réponse simplement très matérielle en termes de moyens.
Martial Foucault, professeur des universités à Sciences Po et chercheur au CEVIPOF, au micro de Rosalie Lafarge. Maire, pourquoi faire ? Rendez-vous hebdomadaire de France Culture jusqu'au municipal tous les jeudis à 18h15 après le journal. À retrouver aussi sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.